voudrais dire d'abord le plaisir que j'ai eu à participer à ce séminaire toutes ces années et le plaisir de faire partie de ce colloque. Donc, qu'y a-t-il de changé entre Jésus et ses disciples après la résurrection, selon Jean Chrysostome? Pour tenter de répondre à cette question, nous pouvons donc explorer ensemble ce qu'il dit du beau chapitre 21 de l'évangile de Jean, lui-même composé de trois temps. D'abord donc la rencontre au bord du lac après une ultime pêche miraculeuse, puis la triple question posée par Jésus à Pierre, « M'aimes-tu ?» et l'injonction qui lui est faite de paître ses brebis, et enfin la question posée par Pierre à Jésus sur ce qu'il en est du sort de Jean. En réalité, Jean Chrysostome est étonnamment discret sur ce passage. Il ne le commente réellement qu'à l'occasion de la « série », je mets des guillemets au mot « série », des 88 homélies sur Jean, qui constitue elle-même un corpus à la fois magnifique et problématique au sein de l'œuvre de Jean Chrysostome. Même si l'on ne suit pas les analyses proposées par Boismard et Lamouille dans leur ouvrage « Un évangile pré-joannique jusqu'au bout », force est de constater tout de même le caractère probablement composite de cette série, généralement plus engagé dans la polémique anti-hérétique et plus engagé également dans le détail, parfois jusqu'au détail grammatical de l'analyse du texte, à tel point que l'on a pu soupçonner donc le réemploi d'un commentaire suivi qui n'aurait pas été destiné initialement à la prédication. Le travail de thèse de Manon Desportes, qui a commencé à débrouiller la tradition manuscrite des quelques 300 manuscrits témoins de ce texte, pourra, nous l'espérons, contribuer à ce que nous puissions un jour y voir plus clair dans ce texte. En attendant, on ne peut qu'être sensible à une différence de facture entre les premières homélies de la série et les deux dernières, les homélies 87 et 88, où se trouve le commentaire de Jean. De Jean 21. Alors qu'il faut 6 homélies à Jean Chrysostome pour arriver au verset 8 du premier chapitre de l'évangile de Jean, et qu'il lui faut 15 homélies pour arriver au verset 18, qui n'est d'ailleurs pas perçu par lui comme un prologue, il lui faut moins de 2 homélies pour commenter les 25 versets du chapitre 21. Surtout, les homélies 87 et 88 respectent un découpage par péricope, qui pourrait correspondre à une lecture faite à l'Assemblée, à la Synaxe, ce jour-là. Puisque l'homélie 87 est consacrée à l'épisode de Thomas et à la pêche miraculeuse, et l'homélie 88 au sort de Pierre et de Jean. On voit bien que dans ces conditions, Jean Chrysostome n'a pas le temps de citer l'ensemble du texte. Il se contente la plupart du temps de le résumer. Il réserve les citations littérales aux paroles prononcées par les personnages, et notamment aux paroles de Jésus, les logia, mais encore pas toutes. Enfin, alors que habituellement il pratique une exégèse plutôt hachée et procédant plutôt par juxtaposition de remarques, les homélies 87 et 88, peut-être sous l'effet d'un découpage net du texte évangélique lui-même, dessinent vraiment trois temps que nous allons donc suivre dans notre exposé, tout en les mettant en écho avec les quelques parallèles que l'on trouve dans le reste de l'œuvre de Jean Chrysostome. Donc trois temps, d'abord ce qui change dans la relation entre Jésus et ses disciples en général, ensuite entre Jésus et Pierre en particulier, puis entre Jean et Pierre. Encore une fois, donc, dans un ensemble qui favorise les ellipses, on le verra, et quelquefois les conflations de scènes, puisque tout cela est souvent résumé. Alors d'abord, ce qui change dans la relation entre Jésus et ses disciples en général. La première chose que Jean Chrysostome remarque à propos du verset 1, Μετά τούτα εφανέρωσεν ἡωτον τοις ματαιτάεις επί τες θαλάσσες τες Τιβεριάδος. Donc après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Donc la première chose que Jean Chrysostome remarque, c'est que la relation entre Jésus et ses disciples n'est plus comme avant, ouk hosper emprosten, et surtout qu'elle n'est pas permanente. On voit à plusieurs reprises revenir à la formule ou synekos. C'est pour décrire cette présence évanescente, Il utilise le verbe apopetomai, littéralement « s'envoler ». C'est un terme qu'il utilise ailleurs pour décrire plutôt le caractère fugitif des plaisirs terrestres ou encore l'âme des disciples qui risque de quitter leur corps sous le choc de la première annonce de la Passion ou encore la voix du Père en Jean 12 que Jésus comprend mais que la foule prend pour le tonnerre. Donc l'idée d'une présence qui disparaît immédiatement. Plutôt que de traduire simplement par « il avait disparu », j'ai choisi de garder l'image malgré son caractère peut-être très, très concret. C'est le premier texte. « Vois-tu qu'il ne séjourne pas constamment avec eux, ni comme avant ? En tout cas, il était apparu le soir et ils étaient envolés. Ensuite, 8 jours plus tard, à nouveau une fois, et à nouveau ils s'étaient envolés. Ensuite, après cela, au bord de la mer, et à nouveau avec une grande peur. » Ce caractère intermittent est confirmé par le fait que l'on puisse compter les apparitions. Comme il ne séjournait pas constamment avec eux, ni de la même manière, il dit « c'était la troisième fois qu'il leur apparaissait quand il était ressuscité des morts ». Jean Chrysostome s'engage ensuite dans une dialectique subtile sur un contexte de peur exprimé à la fois par les termes de « phobos » et de « déos ». La première mention de cette peur, nous l'avons vu dans le premier exemple, n'est pourtant pas très justifiée par le texte même de Jean 21, hein, le « Kai palin meta tuf, polu tufobu ». Peut-être s'explique-t-elle par une confusion, une conflation avec d'autres textes, comme la tempête apaisée en Marc 4, 41, où il est bien question de peur, ou la marche sur les eaux en Matthieu 14, 26, ou encore les récits de la résurrection chez Matthieu. En tout cas, il s'agit d'une peur récurrente, il y a le terme « paline ». Ce serait ainsi, s'il y a bien cette idée d'une conflation, le même type de peur que celle qui avait été suscitée avant la résurrection, lorsqu'il y avait des manifestations de la divinité du Christ. Il n'est pas sûr en tout cas qu'il s'agisse de la peur des Juifs qui est pourtant évoquée en Jean 20, « Dia ton phobon ton iudaion » à propos des disciples qui s'étaient enfermés. Sur ce point d'ailleurs, Jean Chrysostome hésite. Il précise d'abord que Jésus les avait délivrés de la plus grande partie de cette peur puisqu'ils avaient osé se rendre au bord du lac de Tibériade. C'est le texte suivant. « Pour quelle raison a-t-il fait mention du lieu ?» c'est-à-dire du lac de Tibériade, pour montrer, voilà, enfin, il étant d'abord l'évangéliste, hein, pour montrer que Jésus avait dissipé la plus grande partie de leur peur, au point qu'ils se risquent désormais hors de leur maison et qu'ils se promènent partout, car ils n'étaient plus enfermés dans leur maison, mais ils allaient en Galilée pour esquiver le danger des Juifs. En réalité, donc, on voit qu'ils esquivent encore le danger des Juifs et d'autre part que cette peur qui a pourtant normalement été dissipée ne les empêche pas un peu plus loin d'être transis de peur. Ils faisaient cela de nuit car ils étaient transis de peur. Mais c'est en réalité le verset 12 qui fournit la principale accroche biblique à cette peur qui est bien formulée avec le terme de « déos » mais qui s'apparente plutôt au respect. Le verset 12, personne n'osait l'interroger. Jean Chrysostome développe ainsi cette nouvelle relation entre Jésus et ses disciples en déployant cette fois-ci tout le vocabulaire de la réaction aux manifestations divines, et notamment avec le terme « ekplexis » qui était intervenu également dans la scène entre Jésus et Marie-Madeleine. On voit aussi dans le texte que nous allons lire que les disciples ont perdu leur familiarité confiante, leur paresia, et que donc ils sont remplis de cette stupeur. Je cite « Ils n'avaient plus la même familiarité, ils n'étaient plus confiants de la même manière, ils ne prenaient plus l'initiative du dialogue, mais ils étaient assis et ils l'écoutaient. Ils savaient en effet que c'était le Seigneur. C'est pourquoi ils ne demandaient pas « Qui es-tu ?» mais en voyant que son apparence avait changé, qu'elle suscitait beaucoup de stupeur, ils étaient tout à fait stupéfaits et ils voulaient l'interroger à ce propos. Mais la crainte, le fait qu'ils savaient que ce n'était pas quelqu'un d'autre mais lui-même, les retenait de le questionner, et ils se contentaient de manger ce qu'il leur avait créé avec un pouvoir plus grand. Jean Chrysostome se montre ici attentif à être metteur en scène, comme il le revendique d'ailleurs dans une homélie sur Jean qui précède de peu nos homélies. Ici, il explicite ce que le texte biblique suggère mais ne dit pas. L'apparence de Jésus avait changé. On a l'expression morphène à l'oioteran. Ils étaient assis, selon Jean Chrysostome, et katezonto, il me semble que dans l'évangile on mange couché, et ils mangeaient ce que le texte ne dit pas plus que le fait que Thomas ait touché le côté du Christ, même si c'est plus vraisemblable qu'ils aient effectivement mangé. Mais c'est aussi la pratique de Jésus qui a changé. Les disciples mangent ce que Jésus leur avait créé avec un pouvoir plus grand, et demiurgesse metapleionos exosias. Plus haut dans l'homélie, Jean Chrysostome avait compté au nombre des signes divins cette sorte de création ex nihilo de Jésus qui dispose déjà du charbon, du pain et des poissons avant même l'arrivée des disciples et de leurs filets. Je cite, « Et de fait, les signes n'étaient pas ordinaires. Quels étaient-ils ? D'abord, le fait que beaucoup de poissons aient été pris. Ensuite, que le filet ne se soit pas déchiré. Ensuite, qu'avant d'aborder, il y ait les charbons, le poisson placé dessus et le pain. Car il ne faisait plus cela à partir d'une matière préexistante, comme il le faisait en vertu d'une certaine économie, diatina oikonomian, avant la croix. » La résurrection a donc changé quelque chose dans l'économie et le Christ ressuscité n'a plus besoin donc de recourir à une matière préexistante. Ce nouvel état permet de jeter un regard rétrospectif sur les attitudes pré-pascales qui relevaient, dit Jean Chrysostome, de la condescendance. Et donc, au moment du repas, il précise « Et ici, il ne lève plus les yeux au ciel » et ne fait plus ses gestes humains, nous montrant que cela aussi avait eu lieu par condescendance. Mais ce nouvel état suscite inversement un autre type de condescendance. Doté désormais d'un corps incorruptible, on a les termes à la fois de aftarton et akeraton, ce qui, finalement, aux yeux de Jean Chrysostome, n'est pas très loin de signifier « immatériel », le Christ fait preuve de condescendance lorsqu'il se laisse voir. Et là, il y a une sorte d'ellipse chez Jean Chrysostome dans cette assimilation à l'idée que le fait d'être incorruptible signifie l'invisibilité également. Ainsi donc, à propos du verset 1, « Que signifie « il leur apparut » Cela montre qu'il n'était pas visible, si ce n'est par condescendance, puisque désormais son corps était indestructible et incorruptible. C'est également en vertu de cette nouvelle forme de condescendance que le Christ, selon Jean Chrysostome, mange alors que sa nature n'en a pas besoin. Sur ce point, Jean Chrysostome hésite pourtant, et surtout il met un terme par avance à trop d'investigations sur ce point. On retrouve alors chez lui la même formule caractéristique si souvent rencontrée par ailleurs à propos de la création virginale, to de pos, uk hemeteron eipein, la manière, il ne nous appartient pas de le dire. C'est donc le texte suivant. Mais ici, il ne dit pas qu'il a mangé avec eux, tandis que Luc dit ailleurs qu'il partageait des repas avec eux. Quant à la manière, il ne nous appartient pas de le dire. Cela se produisait d'une manière assez paradoxale, tropo tini paradoxo tero, non que sa nature eût encore besoin de nourriture, mais en vertu d'une condescendance pour donner la preuve de sa résurrection. Il semblerait ici que le corps du Christ ressuscité soit un corps dépouillé de sa corporalité, à peine visible, incorruptible, n'ayant pas besoin de matière préexistante et ne mangeant que par condescendance. Sa divinité plus apparente suscite en retour la timidité de ses disciples. Il n'en va cependant pas tout à fait de même pour Pierre, et c'est mon deuxième point. C'est au moyen des discours fictifs censés retraduire les paroles des personnages et ici dotés de participes qui précisent leurs intentions que Jean Chrysostome montre en effet en quoi le dialogue entre Jésus et Pierre produit l'inverse des autres disciples, puisque lui retrouve sa confiance par Ressia, par Ressia et le verbe tarein que le reniement lui avait fait perdre. Pour lui montrer qu'il fallait être rassuré maintenant, dans la pensée que le reniement littéralement était évacué, enfin que le reniement était une chose passée, il lui confie le soin de ses frères. Et il ne met pas en avant le reniement et ne fait pas de reproche sur ce qui s'était passé, mais il dit « Si tu m'aimes, sois à la tête de tes frères, et l'amour bouillant que tu as toujours montré et dont tu t'es réjoui, montre-le maintenant, et la vie que tu voulais exposer pour moi, donne-la pour la protection de mes brebis. » L'annonce donc du genre de mort dont Pierre allait mourir, que Jean Chrysostome lie fortement à la réponse de Pierre « Su oida panta, toi tu sais tout », puisque Jean Chrysostome l'interprète comme une manière de signifier « tu sais le présent et l'avenir ». Cette annonce de ce genre de mort n'est qu'une manière de plus de rassurer Pierre. Il disait cela non pour l'effrayer, mais pour l'encourager. Il connaissait son désir et il savait que cela faisait longtemps qu'il nourrissait le désir de cette belle action. En même temps, il lui désigne le type de mort. Puisque Pierre voulait absolument se trouver exposé au danger pour lui, rassure-toi, lui dit-il, j'accomplirai ton désir, de sorte que ce que tu n'as pas subi dans ta jeunesse, il te faudra le subir une fois devenu vieux. Jusqu'à date récente, on pouvait penser que Jean Chrysostome avait évoqué ailleurs le genre de mort dont Pierre allait mourir, en évoquant la crucifixion, la tête en bas, dans la quatrième homélie sur le commencement des Actes. Il aurait été étonnant qu'il le fasse à cet endroit alors qu'il ne le fait pas dans le commentaire suivi de Jean 21. En réalité, depuis l'édition en préparation par Marie-Ève Geiger des homélies sur le commencement des actes, nous savons qu'il faut enlever cette précision qui avait été ajoutée par un manuscrit particulièrement bavard que l'édition de Montfaucon, révisée par les frères Gaume et reprise par Migne, avait choisi de prendre pour modèle. Donc il n'y a plus de crucifixion la tête en bas de Pierre chez Jean Chrysostome, puisque c'était la seule occurrence. Jean Chrysostome s'engage alors dans une nouvelle dialectique, celle du désir. Le désir de Pierre étant précisément d'être conduit là où il ne désire pas. On retrouve ici un thème développé deux fois par ailleurs chez Jean Chrysostome et citant le même verset dans les panégyriques de Paul et dans la dixième homélie sur la deuxième épître aux Corinthiens. Celui de l'attachement même de l'âme au corps, un attachement naturel et qui ne saurait en soi être pécamineux. Voilà justement ce qu'il voulait et désirait, c'est-à-dire être conduit là où il ne veut pas. C'est bien la raison pour laquelle il le lui révèle. Comme il avait dit partout, je reviendrai sur le partout, « je donnerai ma vie pour toi ». Et même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas, il lui a donné l'objet de son désir. Que veut donc dire « ou tu ne veux pas » Il parle de la sympathie de la nature et de la nécessité de la chair, et il veut dire que l'âme est arrachée au corps malgré elle. De sorte que, même si la volonté était très forte, même ainsi, la nature était confondue. C'est donc par la sympathie naturelle de l'âme pour le corps que Chrysostome explique la contradiction apparente de la volonté de Pierre. Il justifie au demeurant cet attachement comme une disposition utile de Dieu contre le suicide, auquel les hommes seraient tentés de recourir au moindre accès de découragement, d'atumia. Je cite la suite du texte, « Personne ne se sépare de son corps sans souffrir, par une disposition utile de Dieu, comme je l'ai déjà dit, pour éviter que les morts violentes ne se multiplient. » Si dans les conditions actuelles, le diable a réussi à faire que cela arrive et qu'il conduit des milliers d'hommes par-dessus des ravins et des précipices, s'il n'y avait pas un aussi grand désir de l'âme pour le corps, au moindre découragement, tout le monde se jetterait sur la chose. Donc, là où tu ne veux pas, désigne la sympathie de la nature. Devant l'incrédulité suscitée chez l'un des participants du séminaire lorsque j'ai présenté ce texte, je me suis donc sentie obligée de faire quelques excursions dans les ravins chez Jean Chrysostome. À vrai dire, c'était aussi dans l'espoir de trouver l'autre endroit où Jean Chrysostome dit explicitement avoir déjà parlé de la question pour voir s'il était plus clair. Mon étude n'est pas exhaustive et en tout cas, je n'ai pas encore trouvé le texte en question. En revanche, j'ai trouvé de nombreux cas où Jean Chrysostome évoque les fous qui se précipitent d'eux-mêmes dans des ravins. Ils y sont poussés par le diable et sans que personne, mis à part le diable, ne les pousse, ou des nos autuntos. Mais il y a aussi plus précisément l'homélie 18 sur l'épître aux Éphésiens, où Jean Chrysostome conduit le coupable de cupidité devant un autel rougi du sang des victimes de son avidité, qui se sont suicidées par désespoir en se jetant du haut d'un ravin, en s'attachant à des lacets, en se transperçant d'un glaive. Voilà. Au demeurant, Jean Chrysostome ne répugne pas à parler du suicide, puisqu'il explique même l'apparition de l'ange à Marie avant la conception pour éviter, dit-il, qu'elle ne recourt aux lacets en apprenant qu'elle était enceinte. Et il est donc également très sensible au désespoir, atumia, puisqu'il justifie l'ivresse de Noé après le déluge en disant qu'il avait bien besoin d'une petite consolation, micrantina paramutian, devant un spectacle aussi décourageant que celui du déluge. Voilà. Si donc la sympathia de l'âme pour le corps permet d'expliquer la contradiction des volontés chez Pierre, le verset, voilà pour le suicide. Et évidemment, je m'en tiens là pour que ça ne devienne pas une communication sur le suicide chez Jean Chrysostome, ce qui serait dommage avec le beau chapitre de Jean 21. Donc, si la sympathia de l'âme pour le corps permet ainsi d'expliquer la contradiction des volontés chez Pierre, le verset est également convoqué inversement dans l'homélie 10 sur l'épître aux Corinthiens, pour expliquer que les chrétiens ne cherchent pas tant à échapper au corps qu'à la corruptibilité du corps. Et il lui permet également de répondre à l'objecteur des panégyriques de saint Paul, qui dit que Paul aurait éprouvé la peur de la mort. Et Jean Chrysostome répond, en s'appuyant sur ce verset, qu'il s'agit là d'une réaction naturelle du corps et non d'une faiblesse de la volonté. J'en viens enfin, pour finir, et beaucoup plus brièvement, à ce qui change dans la relation entre Jean et Pierre. On en retiendra surtout trois aspects. D'abord, si pour sa part le Christ change, les caractères respectifs des deux apôtres ne changent pas. Je cite, « Une fois qu'ils l'eurent reconnu, à nouveau, les disciples Pierre et Jean montrent leurs traits de caractère respectifs. L'un était plus impétueux, l'autre plus élevé. » Et l'un était plus vif, l'autre plus clairvoyant. C'est pourquoi Jean fut le premier à le reconnaître, et Pierre le premier à venir à lui. Une fois donc qu'il eut reconnu, Pierre jeta tout, les poissons comme les filets, et il se saignit les reins. Voilà. Je passe sur la suite. Mais surtout, dans ce passage où Jean Chrysostome se fait à nouveau metteur en scène, on assiste comme à un échange de paresia, de confiance, entre Jean et Pierre. C'est le texte même de l'Évangile qui, en rappelant dans le verset 20 que Pierre se tourne vers le disciple qui avait reposé sur la poitrine de Jésus, c'est donc ce verset-là qui suggère le rapprochement de notre passage avec Jean 13, 21-25 que j'ai mis sur l'exemplier. Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. » Les disciples se regardaient les uns les autres, se demandant de qui il parlait. Un des disciples, celui-là même que Jésus aimait, se trouvait à côté de lui. Simon-Pierre lui fit signe, demande de qui il parle. Se penchant alors vers la poitrine de Jésus, le disciple lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » La comparaison de ces deux moments permet à Jean Chrysostome de montrer la confiance retrouvée de Pierre. Pour quelle raison nous rappelle-t-il ce moment où Jean s'est penché sur lui ? Ce n'est pas sans raison, ni n'importe comment, mais pour montrer la confiance de Pierre après son reniement. Celui qui alors n'osait pas interroger Jésus et qui se remettait à un autre pour cela, c'est à lui qu'est même confié le soin de ses frères. Et non seulement il ne confie pas à un autre ce qui dépend de lui, mais c'est même lui désormais qui pose une question pour un autre, et tandis que Jean se tait, c'est lui qui s'adresse à Jésus. Mais c'est mon troisième point, cet échange de confiance n'a rien d'une revanche. Jean Chrysostome, qui est l'auteur de l'homélie sur ces mots « Je lui résistais en face », où il s'évertue à montrer que Pierre et Paul n'ont pas pu se quereller en vérité lors de l'incident d'Antioche, a ici encore le désir de souligner la concorde entre les disciples. La concorde et les liens d'affection. Je cite, « Et il montre ici aussi l'amour qu'il avait pour lui, car Pierre aimait beaucoup Jean, et les événements qui suivirent le montrèrent. Et le lien entre eux se voit dans tout l'Évangile et dans les Actes. Puisque donc il lui avait prédit de grandes choses, qu'il lui avait confié la terre entière, qu'il lui avait annoncé d'avance son martyre, et qu'il avait témoigné de son amour plus grand que les autres, voulant partager cela avec lui, il lui dit, « Et lui, quoi ? N'ira-t-il pas sur le même chemin que nous ?» Et de même qu'au moment où il ne pouvait pas l'interroger lui-même, il met l'autre en avant, de même maintenant où il conversait avec lui, et où il pensait que Jean voulait l'interroger sur son sort, mais qu'il n'osait pas le faire, c'est lui qui s'est chargé de poser la question. C'est pourquoi la réponse de Jésus a pour but de tempérer le grand attachement qu'ils ont l'un pour l'autre au moment où il s'agit au contraire de se disperser pour évangéliser le monde. Et donc, texte suivant, il faisait cela à cause de leur attachement hors de propos à Kairos, à Kairou. Comme ils allaient recevoir la responsabilité de toute la terre, il ne fallait plus qu'ils, bon, j'ai traduit par qu'ils restent collés les uns aux autres, c'est littéralement qu'ils restent imbriqués les uns dans les autres, tissés les uns dans les autres. Il en aurait résulté un grand dommage pour la terre entière. C'est pourquoi il lui dit, tu t'es vu confier une tâche, examine-la, mène-la à bien, donne-toi du mal et mène la bataille. Que t'importe si je veux qu'il reste ici, toi, examine ce qui te regarde et préoccupe-t'en. C'est la même interprétation que l'on trouvait déjà dans l'homélie 72 sur Jean qui commentait l'épisode de Jean 13. On y retrouve la même opposition entre le tempérament des deux disciples. Je cite, « Tout se regarde et Pierre, qui est toujours bouillant, fait signe à Jean. Comme il avait déjà reçu des reproches et qu'il l'avait déjà empêché de lui laver les pieds et qu'on le voit partout se précipiter dans son désir mais se faire corriger, craignant à cause de cela, il ne resta pas tranquille et ne parla pas non plus, mais il veut savoir par l'entremise de Jean. » Mais on retrouve surtout l'affirmation très nette, même si c'est avec d'autres termes, de l'affection qui lie les deux hommes. Et lui, quel éloge fait-il de Pierre ? Et il ne le cache pas quand il dit que le Christ a dit « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et partout, il montre qu'il est bouillant et plein de générosité pour lui, car quand il lui a dit « Et lui, quoi ?», il le faisait en raison de sa grande affection. En définitive, on trouve dans ces deux homélies, malgré beaucoup d'ellipses et de non-dits, un effort véritable de la part de Jean Chrysostome de dire ce qu'il en est des relations nouvelles entre le Christ ressuscité et ses disciples. Mais cette tentative reste tâtonnante. Jean Chrysostome tâtonne lui-même. Il note les tâtonnements des évangélistes eux-mêmes, tout en demeurant prudent et prêt à se retirer là où la réflexion deviendrait périlleuse. On sent bien que ceux qui chercheraient à comprendre comment un corps incorruptible, akératone, pourrait manger, seront bien vite classés dans la catégorie célèbre chez Jean Chrysostome des periergazomenoi kai polu pragmonuntes, ceux qui s'occupent indiscrètement de questions non accessibles. Dans le même temps, son attention à se représenter la scène le rend particulièrement sensible à la qualité des relations, le rend sensible également à la mise en œuvre d'une forme nouvelle de condescendance et à ses belles interprétations du dialogue entre Jésus et Pierre sur sa confiance retrouvée ou sur l'affection qui lie Jean et Pierre, dans un ensemble qui est marqué par une grande délicatesse. En d'autres termes, si beaucoup de choses ont changé depuis la résurrection dans ses homélies, Jean Chrysostome est bien resté lui-même, mais probablement ici dans ce qu'il a de meilleur. Merci.